Alors, on a donc quatre grands sujets qui sont des sujets de transformation de notre société, la fiscalité et les dépenses publiques. Donc, deux questions, quelles solutions concrètes et innovantes proposer pour rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Quelles solutions concrètes et innovantes proposer pour optimiser la dépense publique tout en organisant mieux notre pacte social? Donc, la démarche en intelligence collective, comme vous le voyez ici, c'est de regarder finalement toutes les composantes que nous sommes, tous les acteurs que nous sommes, tous les sujets que nous portons. Et on va vivre ça en dynamique collaborative, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs temps, des temps où on va mettre l'accent sur telle nature de questionnement, puis on va tenter de progresser ensemble comme ça. Vous allez voir un petit peu quand on se met en dynamique collaborative, ça permet d'être plus pertinent et plus rapide.
Dans quelques minutes, on va faire des premiers échanges par pair. On appelle ça conversation citoyenne. Ça va durer quelques minutes, mais ça permet à tout le monde de se mettre dans le bain. La deuxième partie, ça va s'appeler le café des priorités. On va vous demander de vous mettre par sous-groupe et en effet de, quelque part, reformuler le sujet dont on parle. Donc en effet, faire ressortir un certain nombre de thèmes sur « attention, ce qui est important à traiter, c'est ça en priorité ou ça en priorité ». Et après, en fait, dans le forum des solutions, on va reformer des groupes. Et là, les gens iront dans les groupes qui les intéressent le plus en termes de sujets à débattre pour arriver à élaborer un certain nombre de solutions. C'est clair pour tout le monde ?
Bon. En fait, moi, ce que je propose pour aujourd'hui, très simplement, c'est qu'on soit en authenticité. Vous êtes d'accord si on était chacun nous-mêmes ce soir ? C'est important d'être soi-même parce que ça permet d'échanger vraiment profondément avec l'autre. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Et on va faire ça sur quoi ? 2 heures à peu près, hein ? On a prévu ? Bon.
Ça vous va ?
Vous êtes prêts ?
Ouais. Ça va être très choquant de dire ça, je le sais, mais... Il y a un certain nombre d'entreprises qui réfléchissent régulièrement à leur organisation par rapport aux évolutions des marchés et de la différenciation et de la valeur ajoutée qu'on produit. Donc elles s'adaptent sans arrêt à l'organisation, à la valeur ajoutée à produire. Et donc on change l'organisation, on bouge, on peut réduire des effectifs, les augmenter. Moi je pense que la société publique devrait être sous la même règle, de gérer le plus possible les services de l'État comme des entreprises ou comme un bon père de famille avec la gestion de son budget familial, de sa famille, quoi. Donc on ne peut pas avoir 1 million de dettes quand on gagne 3 000 euros par mois. C'est pas possible. Je m'aperçois à quel point on a des vrais problèmes d'organisation chez les fonctionnaires où la sécurité de l'emploi détruit de la performance, détruit de l'envie au travail et le fait qu'on ne s'occupe pas suffisamment des gens et de leur employabilité, on n'en a rien à foutre. Et c'est dramatique, parce que les gens ne sont pas aidés dans leur développement personnel. Il y a des gens qui sont 40 ans à la même fonction et qui se désagrègent petit à petit, et c'est scandaleux. Et donc, il faut faire en sorte qu'ils puissent changer et partir ailleurs. Et s'ils ne donnent pas satisfaction à un endroit, ils partent, et éventuellement dans le public. Les entreprises privées fonctionnent comme ça. À un moment, si vous êtes sous-performant, il faut prendre des décisions, parce que collectivement, tout le monde en pâtit. Et donc, il faut créer des ponts entre le public et le privé, arrêter ces statuts et faire qu'on travaille dans la fonction publique. Et c'est très facile d'aller dans le privé et réciproquement. Et ça ferait un bien fou à tout le monde.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ?
Je suis consultant. Je fais travailler les entreprises sur leur vision, leur projet collectif, la cohésion des managers et l'engagement des salariés dans l'entreprise. J'ai un niveau de diplôme très élevé et très demandé, ce qui m'a amené à créer ma propre entreprise.
Vous arrivez à vous payer combien tous les mois ?
À peu près 8 000 euros. En net. Et là, la personne qui pose des questions me regarde avec un air en disant... 8 000 euros, le salopard. Il y a un truc qui me choquait dans le discours que j'entends. Il faut plus de justice fiscale. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, bordel ?
Et j'ajouterais plus, est-ce que c'est le rôle de la fiscalité d'être juste ? Beaucoup de Français sont partis dans une fausse direction qui est de dire l'impôt, ça doit servir à me donner de l'argent, en gros. C'est-à-dire à redistribuer. Un tel gagne plus que moi, c'est pas juste. Il n'y a aucune raison qu'il gagne plus que moi. Donc, par l'impôt, on doit me prendre son argent et me le donner à moi.
Je vais prendre l'exemple de l'ISF. Pour moi, l'ISF, c'est l'impôt le plus injuste qui puisse exister. Et en plus, inefficace. Et c'est là où on voit que c'est incroyable, parce que moi j'entends parler, il faut rétablir la justice fiscale avec l'ISF.
Mais sur l'ISF, si vous voulez, moi ce qui me choque, c'est que dans l'ISF, les gens qui ont accumulé une fortune l'ont fait avec des revenus qui ont déjà été taxés.
Absolument.
Et donc, vous avez déjà payé les impôts, un taux qui n'est pas forcément négligeable. Vous avez tout payé, vous vous achetez une maison, vous achetez des actions, et hop, on vous retaxe. Et chaque année, ça recommence. Ça devient lourd quand même.
Ça devient...
et donc, en plus, c'est inefficace, puisque les gens qui gagnent vraiment de l'argent, ben, ils s'en vont. Dans les 40 plus grandes fortunes suisses, il y en a 20 Français. Donc, ils sont partis, donc ils ne payent plus d'impôts sur le revenu, plus d'ISF, plus rien. Là, on a vraiment perdu de la substance importante pour une injustice, en fait. Donc, c'est pour ça que l'ISF est inefficace.
Moi, la question que je me pose, c'est comment on arrive à un alignement sur ce qui est juste.
Qu'est-ce qui est juste?
Mais voilà. Ça, c'est une question que beaucoup de philosophes ont cherché à résoudre. Il y en a qui ont écrit 3000 pages sur le sujet et on demande une petite fiche. On ne parle jamais. Par rapport aux autres pays, nous sommes ceux qui indemnisons le chômage le plus longtemps, en moyenne, hein, puisqu'on est à 2 ans et 3 ans pour les vieux, et aussi on est ceux qui indemnisent le plus pour les hauts salaires. Donc on peut réduire, oui, proposition simple, réduire la durée du chômage maxi à 1 an. 1 an, voilà, vous devez être capable de retrouver du travail. De toute façon, si vous, on sait bien aussi que si vous chômez 1 an, vous allez chômer 2 de toute façon. Je veux dire, et dans quelques cas, peut-être pas la majorité, mais un nombre significatif, ça devient une rente. Des gens qui se disent, bon, ben, je prends mes 2 ans de chômage et puis on verra après.
Et tu restes chez toi et tu as des aides et des machins, tu travailles au noir, tu travailles 2 ans là, et puis tu te mets au chômage. Enfin, tu vois, c'est complètement pervers.
On va écrire la fiche. Cette fois, je m'y colle.
Description, c'est remplacer RSA. Ça existe encore le RMI ou quelque chose ? Remplacer les aides sociales actuelles, entre parenthèses RSA, chômage, allocation familiale, etc., par une aide unique construite sur la base de ce qui est nécessaire pour vivre. Objectif, augmenter le sentiment de justice de ces aides. Voilà. Et les commentaires, vous pouvez avoir ça pendant 1 an, votre minimum vital. Mais si vous ne bossez pas au bout d'un an, il devient 80%, je le réduis. Et l'année d'après, c'est 50%. Ça veut dire qu'on accepte le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas au minimum vital. S'ils refusent de travailler. Ou alors, c'est les travaux forcés. Le principe, quand même, c'est qu'il faut bosser pour vivre.
Il y a quand même une, pas forcément complètement une logique entre l'effort et le revenu, mais quand même un peu, moi, je dirais, quand même. Hein.
Mais j'allais dire, peut-être que si le chauffeur d'Uber, il avait travaillé mieux à l'école... Il aurait une meilleure situation, il pourrait, comme monsieur, travailler moins et gagner plus.
J'ai une règle simple, tout ce que tu peux gagner, il y a 50% qui est dû aussi à ton éducation, la chance ou la malchance que tu as eue, et il y a 50% qui dépend de toi.
C'est difficile de mettre un pourcentage, mais on a quand même en France un système scolaire qui, à mon avis, permet... à tous de réussir un minimum. Effectivement, tout le monde ne peut pas faire polytechnique ou être agrégé, ok, mais je pense que tout le monde peut aller sur un niveau de BTS, par exemple, si on travaille. Et un niveau de BTS en France, c'est un diplôme qui permet à tous les coups de gagner, d'avoir un emploi. Il y a pratiquement pas de chômage dans les BTS et à tous les coups de gagner sa vie de façon décente. Je veux dire, on commence probablement à 1500 euros et on est à, voilà, on va terminer à 2005 ou 3000, mais bah, tu vas gagner ta vie. Plombier, ça va gagner sa vie, etc. Donc, bien sûr. Et donc voilà, mais les gens ne veulent pas faire ça.
Vous aviez vu dans Le Monde, il y avait un reportage du Monde sur une famille où il y avait 4 ou 5 enfants avec 2000 euros par mois, dont plus de la moitié en aide sociale. La femme ne travaillait pas et ils se plaignaient de ne pas pouvoir offrir à leurs enfants, qui avaient tous moins de dizaines d'années, des vêtements de marque, qui ne pouvaient pas se payer les 70 euros d'abonnement mensuel de téléphone portable. Donc, c'est-à-dire pour cette famille-là, ça va être difficile d'arriver à un minimum reste à vivre qui leur convienne.
Il y aura quelque chose d'objectif où on va décider que le minimum vital, ce n'est pas avoir les fringues Nike. Et ben, c'est en ce sens qu'il faut quelque part que ce débat ait lieu pour dire « Attendez, vous êtes sur quelle planète ?»
il faut marquer un truc, hein. Il a dit qu'il faut restituer.
D'abord, on va faire un test. On va faire un test numérique. Parce que on va faire une restitution dans un instant à travers nos outils, simplement pour que les réponses de table viennent directement, qu'on puisse faire un classement. Eh bien, on vous invite à vous connecter directement sur une application qui s'appelle Yellow. Une personne par table vient ici avec son téléphone, vient flash coder, comme on dit, l'écran pour avoir le flash code. Et normalement, ça se connecte tout seul. Et ensuite, vous accédez directement à des post-it numériques. Vous voyez, là, instantanément, pouf, ça sort, c'est numérisé. Et vous avez le droit de changer même la couleur du post-it. Enfin, il y a des fonctions pas possibles, incroyables. C'est une manière de co-écrire et de co-réfléchir. On est bon, tout le monde s'est connecté.